Vous écoutez France Culture.
Pour l'heure, à 6h49, il est temps de retrouver tout de suite les enjeux internationaux. Bonjour Thierry Garcin.
Et bonjour Marc.
Et vous revenez sur cette terrible actualité, notamment le Niger et l'islamisme au Sahel. En général, votre invité Jean-Pierre Filiu.
Jean-Pierre Filiu, bonjour. Bonjour Jean-Pierre Filiu. Je pense que vous...
Bonjour.
Oui, vous êtes avec nous. Donc, vous êtes professeur à Sciences Po, auteur des 9 vies d'Al-Qaïda, donc à chez Fayard en 2009. Les deux otages français exécutés, on avait essayé de les délivrer. Alors, les questions qu'on se pose, c'est évidemment celle à propos de Dakhmi, à propos également des opinions publiques et du retentissement de ce type d'événement sur les opinions publiques françaises en l'occurrence. Et puis, évidemment, le lien entre Al-Qaïda et au Maghreb et Al-Qaïda tout court. Alors, quelques rappels élémentaires sur l'ACMI, Al-Qaïda au Maghreb islamique, Jean-Pierre Filiu.
Oui, donc Al-Qaïda au Maghreb islamique, c'est l'ancien groupe salafiste pour la prédication et le combat, donc une formation djihadiste algérienne qui existe, elle, depuis 1998, mais qu'il y a maintenant près de 4 ans, a intégré l'organisation de Ben Laden en lui prêtant allégeance et qui, du coup, a accentué à la fois sa propre agressivité à l'égard de la France et aussi celle du réseau Al-Qaïda en général. Alors, ils ont tenté de frapper au nord de la Méditerranée. C'était d'ailleurs une des missions que leur avait assigné Ben Laden. Ils ont totalement échoué parce que le message d'Al-Qaïda est rejeté, combattu pied à pied par les musulmans d'Europe avec beaucoup de succès. Et donc, ils se sont rabattus, si j'ose dire, par défaut, sur des cibles françaises dans leur environnement, d'abord en Afrique du Nord, et puis au Sahara, avec des actions effectivement de plus en plus spectaculaires, attaques contre les ambassades de France en Mauritanie et au Mali, et puis cette série d'enlèvements, de ressortissants occidentaux en général, et français en particulier.
Est-ce que vous pensez, Jean-Pierre Filiu, que c'est précisément une confrontation de longue durée ?
Tout à fait, ils se sont installés dans cette crise, d'où d'ailleurs la violence de ces manifestations, jusqu'à l'été 2010, il y avait toujours des négociations, une espèce de zone d'ombre. Or là, ils ne sont plus du tout dans cette optique. Ce qu'ils veulent, c'est instaurer à la fois un rapport de force et puis surtout, comme vous l'avez noté, s'inscrire dans la durée. Et c'était pour cela qu'ils voulaient avoir encore plus d'otages en leur possession. Ils en ont déjà 7, 5 Français,
un Togolais
et un Malgache, hein, enlevés le 15 septembre à Niamey, dans le nord, à Arlit, dans le nord du Niger. Et donc, ils essayaient d'en avoir plus, non pas dans une logique de pourparler, mais dans une logique d'épreuve de force qui dure.
Alors, avec donc demande de rançon, le fait que éventuellement, le fait que ce soit tout ça se déroule dans des confins saharo-sahéliens, sur les anciennes, comment pourrait-on dire, des anciennes routes du nomadisme, l'espace du nomadisme, c'est dans des états relativement faibles sur le plan administratif. Est-ce que cela est important à relever ?
Le problème n'est pas tant la faiblesse de tel ou tel état. On parle surtout de territoires immenses et très peu peuplés. Et de commandos extrêmement mobiles. Leur nombre est tout à fait limité. Il n'y a pas plus de 200 à 300 membres d'Al-Qaïda dans tout le Sahara. Et ceux qui font le plus parler d'eux sont dirigés par Abdelhamid Abou Zeid, un chef de Katiba. Katiba, c'est ses bataillons qui nomadisent dans l'est du Sahara. Et Abou Zeid, il a 100-150 personnes sous son autorité. C'est lui qui détient d'ores et déjà les 7 otages d'Arlit et tous les soupçons se portent sur lui comme au moins le commanditaire de l'enlèvement du 7 janvier.
Alors le rôle des opinions publiques et les effets sur les opinions publiques occidentales,
C'est évidemment la cible principale, il ne faut jamais l'oublier. Il y a la prise d'otages des ressortissants et puis il y a surtout la prise d'otages collective de l'opinion publique. Il faut voir que ces djihadistes sont particulièrement attentifs à l'impact médiatique de leurs actions. Ils cherchent une manipulation des émotions collectives légitimes, mais dans lesquelles Ben Laden Ben est passé maître. Et donc, on voit bien que pour eux, l'arme de la prise d'otage est justement ce qui permet cette inscription dans la durée, car au fond, elle renouvelle l'émotion chaque jour.
Et les liens alors précisément entre, ou plus ou moins précisément, entre Al-Qaïda au Maghreb islamique et Al-Qaïda ?
Donc les liens concrets sont difficiles, parce que dans un cas comme dans l'autre, les communications peuvent être interceptées au plus grand risque pour les djihadistes. Mais en revanche, on a vu récemment que les liens politiques étaient très forts et qu'il y avait une véritable cohérence dans le discours de Ben Laden d'une part et d'Acmi de l'autre. Il y a eu cet extraordinaire échange de messages entre Ben Laden le 27 octobre et le chef d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, Abdelmalek Droukdal, trois semaines plus tard, sur la question des otages d'Arlit, avec des deux côtés une montée aux extrêmes en exigeant que la France retire ses troupes d'Afghanistan, abolisse la loi sur le voile intégral. C'est une manipulation. Hein. Tout ça ne signifie aucune demande concrète. Ça signifie tout simplement nous ne négocions pas à ce stade et nous attendons, en liaison avec la direction centrale d'Al-Qaïda qui se trouve toujours dans l'ouest du Pakistan, pour que l'épreuve de force et la crise s'aggravent.
Alors, dans ces confins désertiques et également montagneux, quel degré de coordination ou de cohérence de tous ces membres? Vous les estimez à, je crois, quelques centaines. Et quelle organisation telle qu'on peut l'imaginer?
C'est une organisation très éclatée. En fait, il y a deux katibas, hein, c'est-à-dire deux bataillons. Donc, celle d'Abu Zayd, que je mentionnais, qui est la plus importante et la plus agressive. Celle de Mortar, Bel Mortar, elle est plus à l'ouest, et donc le chef est surnommé Mister Marlboro, ce qui en dit long sur les trafics de tout genre auxquels il a été mêlé. Puis il y a deux Sarayas, c'est-à-dire deux compagnies qui, elles, sont plutôt dans l'orbite d'Abu Zayd. Tous ces commandos se déplacent beaucoup, et leur base arrière à tous, c'est dans le nord du Mali, qui est aussi un espace immense, hein. Nord du Mali qui reste au-delà de la possibilité d'action de l'armée gouvernementale, parce que c'est une zone où, en fait, jusqu'en 2006, il y avait une insurrection Touareg. Il y a un accord de paix depuis lors qui a été signé sous l'égide de l'Algérie. Et donc, c'est effectivement extrêmement compliqué d'aller y rétablir la présence de l'État.
Voilà, écoutez, je vous remercie en tout cas d'avoir été en direct et d'autre part donc de nous avoir proposé tous ces éclairages. Je rappelle que vous êtes professeur à Sciences Po et puis auteur des 9 vies d'Al-Qaïda chez Fayard. Et merci.
Merci.
Merci Thierry Garcin. Et donc bien sûr, on retrouve les enjeux internationaux sur franceculture.com.